juste qu'il était l'ancien président du Conseil constitutionnel. Jean-Louis Debré, votre invité ce matin.
Bonjour Jean-Louis Debré.
Bonjour.
Vous êtes le fils de Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle, qui créa l'ENA. Avez-vous pensé à votre père en apprenant qu'Emmanuel Macron voulait supprimer l'ENA ?
Écoutez, d'abord, j'ai pensé à tous les républicains, car l'école d'administration a été créée par la République, pour la République, pour les républicains. C'est Hippolyte Carnot qui, en 1848, à la Seconde République, crée l'ENA. Napoléon III le supprime. C'est le Front populaire qui recrée l'ENA. On l'arrête après. Après, en 1981, c'est François Mitterrand. Les ministres communistes maintiennent l'ENA. Et alors, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui veut la supprimer. Finalement, il y aura deux personnes qui l'ont supprimée ou qui veulent la supprimer, Napoléon III et Macron.
Et comment expliquer qu'Emmanuel Macron, qui en est issu, veuille la supprimer ? Il en connaît les défauts ?
Je ne sais pas, puisque c'est exactement en contradiction totale avec ce qu'il disait il y a encore 18 mois, où il défendait l'école d'administration. Mais, allez,
Vous savez ce qui est reproché à l'ENA ? On voit par exemple que 70% des étudiants de l'ENA sont des enfants de la bourgeoisie, des CSP+. Est-ce que ce n'est pas avant tout une école élitiste ?
Oui, alors, madame, si on part sur ce système-là, supprimons Polytechnique, supprimons l'école de la magistrature, supprimons les ponts et chaussées. Oui, tout l'effort de l'ENA depuis 30 ans, 40 ans, a été de faire un deuxième et un troisième concours pour permettre à un certain nombre de jeunes qui ne sont pas qui sont des milieux salariés et ouvriers d'arriver à l'ENA.
Mais on peut le faire. Seuls 6% des élèves sont enfants d'ouvriers et d'employés. 6%,
oui,
et beaucoup moins qu'il y a 50 ans.
C'est le problème, c'est pas le problème de l'ENA, c'est le problème de la scolarisation et des écoles et des études supérieures. Faisons en sorte qu'il y ait plus d'enfants, de salariés, d'ouvriers qui puissent accéder aux études supérieures. Ça, c'est la réforme des études scolaires et universitaires, c'est pas la réforme de l'ENA.
Vous dites que la suppression de l'ENA est une mesure populiste.
Oui, oui, parce que on veut quoi ? On veut remplacer par quoi ? Par l'expérience ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut revenir au système de l'Ancien Régime où, en fonction de son appartenance politique, au nom de l'expérience, on va vous nommer préfet, ambassadeur. C'est le système américain où, lorsqu'un parti politique arrive au pouvoir, on nomme ses propres amis. C'est pas une bonne chose. Et on reproche aux anciens de l'ENA, ces jeunes, d'être arrogants. Mais qui est arrogant ? C'est le pouvoir politique. Et peut-être faudrait-il faire, pour le pouvoir politique, qu'on puisse devenir président de la République, qu'après une expérience de 30 ans de maire, de conseiller général. Peut-être, si on part là-dessus, alors on va très loin.
C'est ce qui manque à Emmanuel Macron aujourd'hui, clairement. Il a fait l'ENA, mais pas le reste.
Moi, je ne parle pas de nom.
Bon,
je dis simplement que peut-être que, puisque tout est sur l'expérience et non pas sur la connaissance, eh bien, faisons que les postes importants, en politique comme dans le domaine de l'administration, soient réservés à des gens qui ont une expérience.
Et je vous demandais tout à l'heure comment expliquer qu'Emmanuel Macron, qui est issu de l'ENA, veuille la supprimer. Est-ce que, faute de rétablir l'ISF, il supprime l'ENA ?
Mais c'est ce que je crois, c'est que c'est une astuce politique intelligente, puisque depuis quelques jours, on ne parle pas de ce qui est souhaité par les Français, d'une amélioration de la fiscalité, on parle de l'ENA. Tout le monde s'en fiche.
Certains parlent d'un os à ronger,
oui,
donné aux Gilets jaunes.
On polarise sur un autre sujet pour que tout le monde en discute et qu'on oublie que dans le discours que le président de la République n'a pas fait, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien. Et donc, c'est astucieux.
Il n'y avait rien, c'est-à-dire ?
Il n'y a pas grand-chose sur les mesures fiscales. Et le gouvernement ne peut rien faire, puisqu'il y a des déficits importants, etc. Et comme il n'y a pas grand-chose, eh bien, on polarise tout sur un autre sujet.
Vous trouvez qu'il n'y a pas grand-chose, qu'Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure du mouvement et...
J'ai le sentiment que ce que l'on propose... Il y a depuis quelques années, chez les Français, une désespérance de ne pouvoir espérer. Ils en ont assez de cette fiscalité, surtout pour les revenus les plus modestes, qui est sans arrêt plus forte, plus puissante, et qui fait qu'ils voient leur niveau de vie, leur train de vie complètement s'effondrer. Et on ne répond pas à cette question. Alors on répond par la suppression de l'ENA. Mais c'est surréaliste.
Et la suite alors, si on ne répond pas ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis très inquiet. Le pouvoir politique, à force de ne pas vraiment écouter ou de ne pas donner le sentiment de comprendre la désespérance des Français, eh bien, il y a un décalage de plus en plus grand entre les Français et les politiques.
Jean-Louis Debré, vous avez fait un don pour la reconstruction de Notre-Dame ?
Pas encore, mais je vais le faire. Mais je vous signale
vous
que
estimez,
si j'en fais un, si j'en fais un, je ne ferai pas de publicité.
Voilà. Vous estimez que quand on donne, on ne le dit pas.
C'est plus beau. C'est plus beau. Le geste est plus noble. Je crois que on le dit après. On dit que c'est quand c'est fini. Mais le geste comme ça, discret, est plus fort que ceux qui font de la publicité.
Les milliardaires français, Pinault, Arnault, Bettencourt, ont donné à eux trois 500 millions pour reconstruire Notre-Dame. Ils l'ont dit, si je reprends votre expression, ils tenaient avant tout à se faire de la publicité ?
Non, je vais être très prudent, parce que on est aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec un certain nombre de revendications, dans ce que je croyais ne revoir jamais, qui est la lutte des classes. Et donc, ça devient un prétexte pour mobiliser. Je trouve que c'est bien que tout le monde donne. Notre-Dame a été et est un symbole de la France. Je regrette peut-être un peu trop de publicité, parce que finalement ça nuit à la cohésion nationale. Mais n'empêchons pas ceux qui ont de l'argent de donner. Mais soyons discrets. Je pense que nous sommes dans un moment de notre histoire où des luttes, des revendications, des aspirations, un désespoir est en train de naître, de ne pouvoir espérer. Alors, peut-être un peu de discrétion, un peu de modestie ferait du bien.
Dans les évangiles, Jésus recommande de ne pas sonner de la trompette lorsqu'on fait une bonne action. Les milliardaires français auraient dû tenir compte de ce précepte ?
Je pense que c'est pas souhaitable. Il est souhaitable que tout le monde donne, et peut-être il eût été souhaitable qu'on le fasse dans la plus grande discrétion.
Est-ce que vous dites finalement sur les milliardaires français, sur Emmanuel Macron, on se rejoint un peu, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas, ceux qui nous dirigent ne perçoivent pas la lutte des classes, le retour de la lutte des classes, pour vous c'est fondamental ?
On est revenu depuis quelques temps dans une politique, un métier du spectacle, où on fait un spectacle, où il faut faire un spectacle, où la vie politique est un métier du spectacle. Arrêtons de faire du spectacle, soyons vrais et sincères.
Emmanuel Macron manque de sincérité et de vérité.
J'ai dit ce que j'avais à dire.
Merci Jean-Louis Debré.